Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Hubert Reeves pour parler de l'histoire de l'univers et de la beauté du monde. Hubert Reeves, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, vous avez été conseiller scientifique à la NASA, vos sujets de recherche, l'origine des éléments chimiques, l'origine du système solaire. Mais vous êtes aussi un merveilleux conteur qui est devenu très populaire après avoir publié, c'était il y a 30 ans je crois, Patience dans l'azur, qui est un livre qui raconte l'histoire de l'univers et qui a été un best-seller absolument extraordinaire. Mmh. Je me souviens que vous étiez passé chez Pivot et ça avait eu un
impact
formidable. Et depuis, vous êtes devenu une star, on peut le dire. Vous êtes un conteur apprécié de beaucoup de gens. Et c'est vrai que vos ouvrages, qui sont assez nombreux, et le tout dernier pour lequel je vous invite, L'univers expliqué à mes petits-enfants, ont toujours ces qualités de pédagogie, de clarté, on sent qu'on apprend beaucoup de choses compliquées de manière très simple, et en même temps, il y a toujours une dimension poétique, il y a toujours cette fibre particulière que vous avez, moi que j'apprécie beaucoup, on se connaît depuis longtemps. Mm-hmm. Je sais que vous aimez beaucoup la nature, vous avez une maison avec votre femme Camille qui est à Malicorne, vous avez fait d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages, où vous observez les arbres, les oiseaux, vous aimez beaucoup, vous avez un lien vraiment très concret avec la nature. Et ces deux dimensions se lient toujours, cette dimension de l'histoire longue du cosmos et cet enracinement dans l'émerveillement du monde. Et je voudrais vous poser une première question toute simple. Qu'est-ce qui a fait naître en vous cet émerveillement? Comment est né ce questionnement sur l'origine du monde et cette passion pour l'histoire de l'univers?
Alors, en gros, je dois dire que je le dois à ma famille. Ma famille, ma mère surtout, mon père, étaient en grande vénération devant la nature. C'était toujours des spectacles auxquels nous étions invités. Je me souviens, par exemple, nous vivions près d'un grand lac au Québec. Ma famille, ma mère surtout, mon père, étaient en grande vénération devant la nature. C'était toujours des spectacles auxquels nous étions invités. Je me souviens, par exemple, nous vivions près d'un grand lac au Québec, avec un horizon très dégagé vers l'ouest. Il y avait des couchers de soleil absolument somptueux. Et ma mère nous appelait, il y avait un banc, c'était le banc des couchers de soleil. Venez voir comme c'est beau, c'est donc beau. Au Québécois, on dit c'est donc beau, comme c'est beau. On avait des oiseaux qui venaient nicher, on avait ce qu'on appelait des cabanes d'oiseaux, des nichoirs pour les oiseaux. On était tout contents quand on voyait arriver les petits oiseaux au printemps. On faisait attention aux chats. En fait, ça faisait beaucoup partie de la famille. Et c'est là que j'ai pris ce goût pour cela. Et ça, je le dis aux parents, c'est vraiment un grand cadeau à faire aux enfants que de les amener dans la nature très jeunes. Parce que quelqu'un qui aime la nature, là, je cite, je crois que c'est Victor Hugo, disait, quelqu'un qui aime la nature ne peut jamais être complètement malheureux.
C'est vrai.
Il a toujours un refuge. Quelles que soient les difficultés qu'il vit, les souffrances, il a un refuge, c'est d'aller dans la forêt. C'est ce que les Japonais appellent Shirin-yuku. Shirin-yuku, ça veut dire un bain de forêt ou un bain d'arbre. Mmh. C'est-à-dire partir seul et vivre dans un monde végétal, vivre en contact avec les arbres. Les arbres ne vous dérangent pas, mais en même temps, ils sont présents, vous les sentez. Et pour répondre à votre question, ça vient vraiment de ma famille.
Et alors, comment vous êtes passé après de cette sensibilité qui vous a été donnée, que vous avez aussi personnellement, qui fait que vous êtes émerveillé par la beauté du monde, à cet intérêt pour l'histoire de l'univers, pour l'astrophysique?
Alors, il faut vous dire que quand j'ai commencé à faire des sciences dans les années 1950, on ne parlait pas beaucoup de cosmologie. On ne parlait pas beaucoup de ces découvertes récentes qui avaient été faites au début du siècle par Einstein, par Lemaître. On n'avait pas encore la preuve qu'on a eue en 1965. C'est pas vieux, 1965. C'est le moment où on a eu des raisons, l'observation du rayonnement fossile initial qui nous a confirmé que l'univers a une histoire. Quand j'étais enfant, on était encore dans la pensée aristotélicienne. L'univers a toujours existé, existera toujours, rien ne change jamais. Et la grande découverte, pour moi, la plus importante de l'astronomie du XXe siècle, c'est ce changement total de point de vue. L'univers n'a pas toujours existé, il a un âge et il est en évolution. On entre dans un contexte historique, alors qu'on se croyait dans un contexte figé, stationnaire, et on en entre dans un contexte historique. Et pour moi, ça a été vraiment une révolution de pensée, parce que ça intégrait beaucoup d'autres découvertes, par exemple, tous les événements qui se sont passés, en particulier notre existence. Notre existence devient un chapitre de l'histoire de l'univers.
Oui, puisque vous dites qu'on est des poussières d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que les atomes dont nous sommes fabriqués n'existaient pas au début de l'univers et que ce sont les étoiles qui les ont fabriqués. C'est les planètes, la Terre en particulier, qui a permis la naissance de la vie. Tout ça, c'est des chapitres d'une histoire. Ce qui était vu comme quelque chose de figé devient un chapitre,
deviennent
des chapitres que nous possédons, que nous déchiffrons. Et les scientifiques et les physiciens aujourd'hui explorent le monde dans l'idée, comme les préhistoriens, qui vont faire des fouilles dans des endroits et qui trouvent des endroits où les êtres humains ont vécu il y a 1 million d'années, il y a 100 000 ans, et qui ramassent des fossiles. Et ces fossiles leur permettent de dire, ben, avec ce que nous avons, des poids de bois de Rennes, des pierres taillées, voilà, on peut vous dire comment vivaient les êtres humains à cette période. Nous, nous faisons la même chose en regardant les étoiles, les galaxies, les atomes. Nous pouvons dire, voilà comment était l'univers il y a 1 milliard d'années, il y a 2 milliards d'années. Donc, nous sommes participants d'une grande histoire qui devient de plus en plus présente. Et d'ailleurs, à Genève, le grand accélérateur du CERN est en train de créer un nouveau chapitre. On a annoncé la détection du fameux boson de Higgs. C'est une des raisons pour laquelle on a fait cet accélérateur, c'est qu'il manquait dans la théorie de la physique sur les particules élémentaires, il manquait une particule que nous appelons le boson de Higgs, fondamental pour toute la physique, et confirmant aussi beaucoup de choses par rapport à l'histoire du cosmos. Ça fait partie, c'était un chaînon manquant de l'histoire du cosmos. Donc vous voyez, c'est très passionnant parce que nous sommes dans une histoire qui est en train de se décrypter avec des instruments, des satellites, des radiotélescopes, des télescopes au sol et aussi avec des accélérateurs. On reconstruit l'histoire du monde, ce qui est tout à fait fascinant et excitant.
Une chose qui vous passionne beaucoup et que vous racontez dans vos différents ouvrages, c'est cette croissance de la complexité. C'est-à-dire qu'on parle de choses très simples, très fondamentales, et puis progressivement, avec le temps, justement, la longueur du temps qui est immense, les choses s'agencent entre elles et se complexifient jusqu'au cerveau humain. Racontez-nous un peu cette odyssée, cette épopée de la complexité en quelques... phrase essentielle, quelles sont les strates les plus importantes qui vous fascinent le plus?
Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence énorme entre l'univers des premiers temps et celui d'aujourd'hui. D'abord, il y a une différence de température. Le premier était extrêmement chaud, des milliards et milliards de degrés, extrêmement dense, extrêmement lumineux. On l'a appelé Big Bang, Big Flash. Et l'univers des premiers temps avait ses propriétés. Aujourd'hui, il est de plus en plus froid. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur la Terre. On ne parle pas de la même chose, là. Il est de plus en plus froid, de plus en plus sombre et de plus en plus structuré. L'univers des premiers temps n'avait aucune structure, aucune galaxie, aucune étoile, aucune planète, aucune molécule complexe, même pas d'atomes, même pas de protons et de neutrons. Il y avait une grande soupe de particules élémentaires qui sont les électrons de nos fils électriques, les quarks, les photons. Mais c'est tout. Il n'y avait pas de structure, pas d'organisation. Il n'y avait que des particules qui nageaient dans une espèce de bouillon. Je compare souvent au potage aux lettres que ma mère faisait. Dans un bouillon de poulet, elle mettait des petites pâtes qui avaient des formes de lettres. Et les enfants les assemblaient sur la table. Mais c'est un peu l'histoire des débuts de l'univers. La matière se structure progressivement. Les premiers protons et neutrons naissent quand l'univers a 1 millionième de seconde. Les premiers atomes, il y a à peu près 1 seconde. Ensuite, les étoiles se forment, qui forment des autres atomes. Progressivement, ça se structure et on voit apparaître des structures toujours plus complexes, plus performantes. dont nous sommes des exemples. Nous sommes fait en dernière analyse de quarks et d'électrons, mais ça prend beaucoup de quarks et d'électrons pour faire une personne qui est capable de réfléchir. Le nombre, c'est près de 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 pour les initiés. Mmh. Et cette structure qui est nous, qui est chacun d'entre nous, c'est le résultat d'une immense histoire dans le passé qui remonte jusqu'au Big Bang et qui voit apparaître progressivement à des périodes qu'on connaît souvent, des structures de plus en plus complexes qui s'associent à l'image des lettres, qui s'associent pour faire des mots, qui s'associent pour faire des phrases, qui s'associent pour faire des chapitres, des livres, etc. L'univers se structure parce qu'il y a, dès le départ, il y a des forces, c'est-à-dire que les particules s'attirent ou se repoussent et donc peuvent se joindre.
D'accord.
Et quand elles se joignent, elles font quelque chose de nouveau. Il y a du nouveau dans l'univers. Au début, il n'y avait pas d'eau. Il y a eu, à un moment donné, des protons et des neutrons, et puis l'eau s'est formée par la jonction, mais l'eau a ce qu'on appelle des propriétés émergentes. L'eau a des propriétés que nous connaissons tous, c'est un solvant. L'hydrogène et l'oxygène qui le constituent n'ont pas ces propriétés. Il y a l'émergence d'une propriété quand il y a une jonction entre deux éléments. Et ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe quand un homme et une femme font un enfant. On a encore la rencontre et la naissance d'un nouvel élément qui a des propriétés émergentes, chacun d'entre nous. Vous voyez, il y a cette combinaison qui se produit. Et on peut raconter l'histoire de l'univers en disant il se refroidit, il s'obscurcit, il se dilue, il devient de moins en moins dense, mais il se structure. Ça, c'est la grande découverte que la découverte du Big Bang a amenée. C'est cette découverte que toutes ces choses qu'on connaissait, la chimie qui fait des molécules, la physique qui fait des atomes, finalement, c'est tous des chapitres de notre propre histoire. Si on se demande d'où on vient, eh bien, la physique, c'est un chapitre du moment où les protons et les neutrons se sont formés, la chimie pour les atomes, la biologie pour la théorie de l'évolution, etc. Tout a pris place. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert tout cela. Encore une fois, qui n'était pas connu quand j'étais étudiant. On savait qu'il y avait de la chimie, de la physique et tout ça, mais on ne savait pas que ça se coordonnait pour faire une grande histoire. Et l'histoire, quelle histoire? La nôtre, la celle de chacun d'entre nous.
Lilian Vard.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de forces qui font que, justement, l'univers se structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature de cette force? Est-ce que c'est encore de la matière? Est-ce que c'est quelque chose qui domine la matière? Finalement, est-ce que ce n'est pas la chose la plus énigmatique de cette structuration du monde que de se dire qu'il y a une force, une énergie? Qu'est-ce que c'est que cette force dont vous nous avez parlé?
Vous savez, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Au départ, nous constatons qu'il y a des particules, nous les détectons, nous constatons qu'elles sont attirées les unes vers les autres par des forces qu'on interprète en termes de champ, mais tout ça, c'est des mots en définitive. Il y a des particules, il y a des forces, on en dénombre quatre, il y en a peut-être plus, mais on en connaît seulement quatre, et ces forces, l'union de ces particules sous l'effet des forces produit de la structuration et des éléments de plus en plus complexes, avec des comportements de plus en plus complexes. Et la science, c'est un peu des pourquoi emboîtés. On dit pourquoi c'est comme ça. Mais on découvre en termes de certains éléments. Mais pourquoi ces éléments-là? Vous voyez, chaque fois qu'on fait un progrès,
une nouvelle question se
repose. Pourquoi et comment, d'ailleurs?
Pourquoi et comment? Comment c'est plus facile? Parce qu'on peut le tester au laboratoire. Mais si on demande la question, pourquoi il y a des forces plutôt que pas de forces? On se retrouve près de Leibniz au départ. La première grande question à laquelle on n'a pas de réponse, c'est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'était la fameuse question de Leibniz. Eh bien, vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous ne pouvez pas expliquer que de rien émerge quelque chose. Puis ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, rien? Ou le néant, vraiment, c'est des mots qu'on plaque sur des réalités qui ne sont pas à notre échelle, que nous ne sommes pas en mesure de comprendre. Donc, nous découvrons des choses, nous les interprétons en termes d'éléments. Par exemple, on interprète la formation des systèmes en termes de forces. Les forces, on les interprète en termes d'autres choses. Mais il y a toujours, en définitive, oui, mais pourquoi ça plutôt que pas ça? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi sur ce quelque chose s'exercent des forces? Qu'est-ce que c'est que ces forces? Ça, c'est toujours les limites on pourrait dire, métaphysique de la science. La science doit commencer par avouer son ignorance. Personne ne nous a jamais appris, et c'est peu probable qu'on y arrive, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Mais c'est un fait. On sait qu'il y a quelque chose, on l'est là. Mais pourquoi? Pourquoi il y a ça? Ben, il faut le poser, pour moi, comme un point de départ. On part sur deux questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Et pourquoi c'est quelque chose qui, au début, flottait indépendamment dans l'espace, a commencé à se structurer? Pourquoi la matière du Big Bang, qui était incohérente, instructurée, pourquoi est-ce qu'elle a commencé à se structurer? Alors ça, ce sont les deux questions qu'on pose au départ, puis on dit, bon, on les a posées, maintenant on n'en parle plus, on continue.
Et mais est-ce que la science peut un jour répondre à ces questions?
Ben, ça, je ne peux pas vous répondre. Là, c'est difficile. Non, c'est, les prophéties sont toujours...
C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a un saut métaphysique ou que quand même c'est possible
On voit qu'on avance, on avance continuellement. Mmh. On est dans un domaine qui est plein de questions. On résout certaines questions. La science a fait de très grands progrès. Mais toujours, elle repose à la base sur des choses qu'on suppose. On dit « supposons que », et puis on continue. Puis des fois, on peut aller un peu plus loin dans le « oui, mais ».« Oui, mais pourquoi c'est comme ça ?» Et ça, c'est le domaine dans lequel nous travaillons, avec des méthodes, méthode scientifique, qui est une méthode qui s'est avérée et qui est bonne. On sait qu'elle est bonne parce qu'elle donne des résultats. Si vous voulez un exemple, quand vous poussez le bouton de la lumière s'allume. Ça, c'est la confirmation de toute une théorie de la physique qui s'appelle la théorie électromagnétique. C'est la confirmation qu'il y a du vrai dans ça. C'est vrai. La science n'est pas un domaine de vrai ou faux. C'est un domaine de crédibilité et de « il y a du vrai ». Il y a quelque chose comme ça. La preuve, j'allume la lumière et je la referme.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Hubert Reeves, et nous parlons de l'histoire de l'univers, de la beauté du monde. Et nous venons d'écouter ce premier morceau que vous avez choisi, Hubert Reeves, le Quatuor de Haendel, opus 72, Le lever du soleil. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la musique aussi, ça fait partie des, effectivement, de la beauté du monde, mais cette fois retraduite par les artistes. Pourquoi avoir choisi ce morceau?
Bon, d'une façon générale, j'ai toujours besoin de musique. Quand je travaille, ça c'est une de mes pièces favorites, ça me met dans une bonne ambiance, ça me met de bonne humeur. Quand je travaille et que je n'ai pas de musique, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je prends des pièces que je connais bien. Si je ne connais pas bien, je ne peux pas en même temps réfléchir à ce que je fais et écouter la musique. Mais quand des pièces me sont devenues très familières, ça va très bien ensemble. Et j'aime beaucoup Haydn. Haydn, c'est pas Mozart, mais en même temps, il y a une sérénité, une sensibilité qui est plus présente et qui est plus grave. C'est toujours un peu plus grave. Et ce morceau le lever du soleil. Pour moi, c'est effectivement cette lente musique qui... C'est effectivement une très bonne image du lever du soleil.
Est-ce qu'il y a une musique dans l'univers? Vous parliez du rayonnement fossile tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a une musique? Est-ce qu'on peut entendre des sons?
C'est-à-dire qu'on peut entendre des bruits. Oui. Le soleil, on écoute le soleil maintenant, et c'est absolument, c'est très complexe, c'est très, très intéressant. Ça n'est pas de la musique. C'est-à-dire, c'est des ondes électromagnétiques qui sont émises par les phénomènes d'atomophysique atomique qui s'y passent. Et on ne peut pas parler de la musique des étoiles. Les étoiles ne font pas de la musique. Il faut un bruit tonitruant. Et si on l'entendait, on serait réduit en pièces immédiatement. Pourquoi on ne l'entend pas? Parce qu'il n'y a pas d'air entre nous et les étoiles. Mais maintenant, on a des satellites qui s'en rapprochent de plus en plus près et qui perçoivent effectivement...
Mais ce ne sont pas des bruits harmonieux, c'est totalement
chaotique.
Alors la musique des sphères des médiévaux est un mythe.
C'est une belle histoire.
Par contre, on a le chant des oiseaux.
Mais ça, c'est autre chose. Là, c'est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus organisé. Voilà un exemple. La musique, c'est une organisation comme les lettres ou la peinture. On prend des éléments simples, des notes, des sons, avec des harmoniques, avec des fréquences, et puis on les associe. Et quand on s'appelle Beethoven ou Wagner, ben ça fait du Beethoven ou du Wagner.
Donc il y a une musique du monde, en réalité. Il n'y a pas une musique des sphères, mais il y a une musique du monde.
Il y a une musique créée par les êtres humains. Et puis il y a aussi la musique des oiseaux, bien sûr, mais qui n'est pas... produite pour des motifs utilitaires. Il y a les chants d'amour, il y a les chants de territorialité, il y a les bagarres, il y a des sons qui sont... Les sons ont une utilité dans le cadre de la nature. Oui.
Alors, vous qui êtes physicien, vous avez aussi fait beaucoup de mathématiques. J'aimerais savoir si, justement, ce que vous ressentez dans cette harmonie, dans ce rythme, ce plaisir que vous avez dans la musique, est-ce que ça peut se rapprocher à la beauté mathématique, c'est-à-dire justement parce qu'il y a un rythme et une harmonie dedans?
Oui, je sais que beaucoup de gens disent ça. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre la musique et les mathématiques. C'est que les mathématiques sont purement dans l'intellectuel, dans le mental. Il n'y a pas d'émotion au sens propre dans les mathématiques. C'est un jeu. Les mathématiques, c'est un jeu, un peu comme jouer aux échecs. C'est mettre ensemble des axiomes, vérifier leur cohérence et tout cela. Ça vous passe par la tête, si vous voulez.
C'est un plaisir de l'esprit, oui.
Et la musique vous passe par les tripes. Ça, je pense que c'est une différence fondamentale. Bien sûr, il y a des constructions mathématiques dans la musique, mais pour moi, ça n'est pas du tout l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est ce que vous vivez émotivement quand vous écoutez du Wagner, que vous êtes transporté par des ondes. Ça vous pénètre. Et c'est un grand avantage sur les autres, sur la littérature, par exemple, c'est que c'est international. Un Chinois ou un Coréen peut goûter la musique. Il n'y a pas cette difficulté du langage entre les deux.
Alors, il y a un mathématicien qui était aussi saisi par la grandeur et ses idées froides et d'admiration aussi par la beauté du monde, c'est Pascal.
Oui, absolument.
Lilian Vard.
Oui, j'ai choisi, en vous lisant en fait, en préparant cette émission, je vous ai beaucoup lu. Et ça m'a fait penser à Pascal, parce que Pascal est quelqu'un qui, évidemment, est un éminent scientifique, c'est un très grand mathématicien, géomètre, etc. Mais dans les pensées, on voit apparaître un autre Pascal. Alors parfois un Pascal très pessimiste, qui a une foi janséniste assez terrifiante. C'est pas celui-là que j'ai pensé, évidemment, quand je vous ai lu. Mais j'ai plutôt pensé au Pascal qui s'émerveille devant la grandeur du monde, même si, lorsqu'il s'émerveille, évidemment, ça lui inspire des pensées sur l'infini petitesse de l'homme quand il observe l'univers. Mais vous n'êtes pas loin d'en parler aussi dans vos ouvrages. Et puis enfin, c'est ce Pascal qui dira que l'homme est infiniment petit, n'est qu'un roseau, mais c'est un roseau pensant. Donc, alors, ce sont quelques extraits que j'ai choisi des pensées. C'est le grand passage très connu sur les deux infinis. Donc, je voulais vous en donner lecture parce que je pense qu'il résume certains courants qu'il y a dans votre propre pensée quand vous observez la nature et cet infini qui s'ouvre à vous. Et on va voir que Pascal avait quand même l'intuition que nous n'étions pas le seul univers existant. Que l'homme contemple la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrassent. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme, étant revenu à soi, considère qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même à son juste prix. Car enfin, qu'est-ce qu'un homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs principes sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. Et pourtant, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Toute notre dignité consiste dans la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée que nous nous saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale.
Hubert Rive, j'aimerais savoir si vous pensez, comme certains, que au fond, toute cette croissance, cette structuration de l'univers, cette croissance de la complexité, était faite pour aboutir à la pensée humaine, au cerveau humain, où c'est un accident, c'est un hasard, ça aurait très bien pu ne pas se produire.
Oui, ça c'est une grande question, bien sûr.
Là, on rentre dans les questions métaphysiques.
Qui divise beaucoup les gens. Mais je voulais dire un peu quelque chose sur Pascal, si vous permettez, avant. Il faut se dire que Pascal écrit vers 1660, c'est 50 ans à peine après que Galilée a montré que la Terre n'est pas le centre du monde et que l'univers est très grand, que les étoiles sont des soleils, mais à des distances gigantesques. Et il en est effrayé, il le dit. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est justement parce qu'il prend conscience, c'est à la fois un homme, un excellent scientifique, comme vous avez dit, mais un angoissé et un homme religieux et un philosophe. Et il fait la jonction, il est peut-être un des premiers à faire cette jonction. Qu'est-ce que ça implique, ce que Galilée a trouvé, au-delà d'être simplement le système solaire? Ça influence toute la pensée humaine. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Ce pessimisme de lui, c'est qu'il est effrayé par tout cela. En fait, s'il revenait aujourd'hui, on lui dirait « Tu ne dois pas être effrayé de ça, parce que si l'univers avait été petit comme on le croyait, tu n'existerais pas. » Parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait des galaxies, des étoiles, des collisions de galaxies. Un univers dans lequel il y a quelqu'un qui pense, ça doit forcément être un univers gigantesque et très vieux.
Alors je reviens à ma question.
Oui,
vas-y. Est-ce que justement cet univers était fait pour arriver à une personne qui pense?
Alors moi je ferais une distinction entre deux choses. Il y a les faits que tu as mentionnés et il y a l'interprétation des faits. Les faits, on en est d'accord, la science est assez crédible sur tous ces plans, ça se présente bien. L'interprétation des faits, comme cette question que tu poses, c'est la question de l'horloger, c'est la question du plan, du projet. Quand on regarde la planète, on s'aperçoit qu'elle est posée partout, mais que les réponses qui sont données sont très différentes. Tu sais, puisque tu connais bien ces philosophies orientales, il y a une différence fondamentale entre la vision de Dieu des chrétiens. Le Dieu est une personne, on peut lui parler, il y a quelqu'un au bout de la ligne, on peut prier. Et les orientaux, et aussi beaucoup d'occidentaux comme Einstein et d'autres philosophes, disent non, Dieu c'est un principe impersonnel, c'est quelqu'un qui ne répond pas, il n'y a pas de répondeur, c'est simplement lui qui a organisé l'univers. Et puis on retrouve dans les différentes religions des versions différentes. Pour moi, c'est une illustration du fait que les questions sont universelles et les réponses sont culturelles. ce que vous répondez à cette question quand vous vous la posez dépend beaucoup du lieu où vous êtes né. Si vous êtes né au Québec comme moi, vous étiez dans un catholicisme très, très strict, très rigoureux. Si vous êtes né en Chine, vous n'aurez pas la même façon de parler de Dieu, de la mort, de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Tous ces éléments sont différents. Et pour moi, c'est la preuve du fait que cette question que tu poses, la question du projet, la question de l'organisation,
c'est une intention.
De la volonté, une intention, la question de l'intention.
Même une intention de l'univers, enfin, sans poser un être extérieur à l'univers.
Non, tout à fait. Mais pour moi, c'est des questions qui nous dépasseront toujours. Je serais plutôt du côté de Spinoza sur ce plan, qu'il y a quelque chose qui est... C'est comme si vous vouliez enseigner la géométrie à votre chat. Vous savez très bien que c'est
pas la peine. Ça
n'arrivera jamais. Pas parce qu'il n'est pas capable, son esprit. Il ne sait même pas qu'il ne sait pas qu'il ne connaît pas la géométrie.
Alors,
et de la même façon, la réponse que je te donnerai à ta question, je n'ai pas répondu, c'est que je pense que cette question-là, qui est une question importante, on n'a pas les moyens d'y répondre. J'ai un ami qui disait un jour, et je trouve ça très juste, je ne dis pas qui est on nous a donné le moyen de poser des questions, on ne nous a pas permis d'y répondre, on ne nous a pas donné les moyens d'y répondre. Donc moi, c'est ma version.
D'accord.
C'est quelque chose qui est une question importante.
Mais qui reste à jamais ouverte.
Même, je ne dirais pas à jamais, mais vraisemblablement. Okay. Enfin, je pense que ça dépasse nos capacités. On tourne autour de ces questions depuis des milliers d'années et on n'avance pas vraiment.
En même temps, tout en restant là d'un point de vue scientifique, il y a des scientifiques qui ont des options philosophiques. Et on a reçu ici, il y a 2 mois, Trings Antoine.
Oui.
Et lui, c'est intéressant parce qu'il est dans une culture bouddhiste.
Oui.
Et il dit, au fond, ma pratique de l'astrophysique, la découverte de la croissance, de la complexité, de l'histoire de l'univers et tout, l'a amené plutôt philosophiquement à penser qu'il y a un principe créateur.
C'est ça.
Parce qu'il dit, au fond, je ne comprendrais pas comment tout ça aurait pu avoir lieu uniquement par le hasard, ou alors il faudrait qu'il y ait des milliards d'univers qui puissent coexister au nôtre pour qu'on puisse dire la probabilité que ici ça ait produit l'être humain, et puis que ça veut dire que ça a pu échouer des milliards de fois, mais là, par chance, on est tombé sur la bonne formule. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là?
Je pense que quand il dit il n'y a pas une intention, alors il y a que le hasard. Il en fait deux éléments.
Oui, une alternative.
C'est l'un ou l'autre.
C'est l'un ou l'autre.
Moi,
oui.
Je ne vois pas de raison de supposer que je pense simplement que c'est au-delà de nos capacités. Mais le fait qu'on ne soit pas, je ne suis pas à l'aise avec le principe d'une organisation, d'un horloger, mais je ne sais pas quoi mettre à la place. Et le hasard, pour moi, dans un sens, ça ne veut rien dire. Quand tu y regardes de près, c'est un mot creux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne comprend pas et qu'on pense qu'il doit y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On retombe dans ce monde de « nous sommes très limités dans notre pensée ». Nous avons accès à des modes de pensée. Nos chats ont accès à des modes de pensée aussi. Je crois que toutes les espèces vivantes, animales, ont un mode de représentation de la réalité. On le voit bien, on parle de l'intelligence des chats et des chiens, mais on ne leur en demande pas trop. Parce qu'on sait bien qu'il y a des choses qu'ils sont incapables de savoir, qu'ils ne peuvent pas comprendre la géométrie. Mais je pense que c'est le même genre de limitation dans lequel nous sommes. Ça, c'est de plus en plus mon
Donc
opinion.
Tu reverrais aussi bien dos à dos Hawking que Trings Antoine, qui ont des visions complètement différentes dans leur interprétation de la croissance.
Je pense qu'ils sont, comme chacun de nous, limités par la capacité de l'esprit humain, qui a de grandes capacités, mais qui a des limites.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation avec Hubert Reeves sur l'histoire de l'univers, la beauté du monde. Nous venons d'écouter Maurice Ravel, Daphnis et Chloé. Lilian Var, vous brûliez d'envie de poser une question à Hubert Reeves.
Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Pascal en disant que les découvertes de Galilée avait saisi Pascal dans sa pure intériorité, Pascal l'homme, non pas le scientifique, et donc il en avait tiré des conclusions philosophiques qui étaient les siennes. Et à la suite de la question que vous a posée Frédéric Lenoir, moi j'aimerais savoir, non pas ce que pense Hubert Reeves de toutes ces théories sur l'intentionnalité de la structuration du monde, mais ce que pense Hubert Reeves, l'homme, vous.
Mais l'homme.
Exactement. Oui. Quelle est votre intime conviction? Vous dites qu'on ne peut pas savoir, mais vous avez quand même une intime conviction.
Je ne sais pas si je peux dire ça. Je peux dire, je constate que nous sommes très simplistes, que nous avons des alternatives qui sont certainement très simplistes, très enfantines vis-à-vis de la réelle réalité de la réalité. Voilà.
La profondeur de la réalité.
Par exemple, ça se pose à vous quand vous dites, supposons qu'il y ait un dieu ou un principe, alors les camps d'extermination, voyez. Quand vous rencontrez des choses comme ça, vous vous apercevez que vous n'êtes pas capable d'intégrer dans votre vision du monde, tout ce qu'il y a dans le monde. Ce qui se passe dans l'univers, la croissance de la complexité, ça c'est sympathique, c'est agréable. Je serais prêt à admettre qu'il y a quelque chose qui l'organise, bien que j'en sache rien. Mais en même temps, on est obligé de vivre avec l'horreur. Nous sommes aussi entourés d'horreur. Et cette horreur, une vision du monde qui serait complète pourrait l'intégrer. Moi, je ne vois pas qu'on puisse l'intégrer. On ne peut que la mettre de côté et l'ignorer quand on veut ça, avoir une vision du monde. Donc je me dis, c'est simplement que nous sommes trop limités pour comprendre ce qui est vraiment au fond de tout cela. Est-ce qu'on le saura après notre mort? C'est une autre question. Moi, je me dis des fois, je poserai quelques questions quand j'arriverai de l'autre côté. Et ça, cela touche au fait justement qu'il y a, que nous sommes en mesure de poser des questions. C'est ce que Camus appelait le silence déraisonnable du ciel. Nous sommes en mesure de poser des questions, mais nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. Et ça, c'est frustrant. Mais bon, c'est notre destinée. Et ça, ça nous ramène au sujet que nous voulons aborder, qui est le problème de l'écologie.
En vous écoutant, je me dis, vous êtes un vrai agnostique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire celui qui dit, je ne sais pas, je ne connais pas, et je pense que je ne peux pas connaître, donc je suspends mon jugement.
C'est ça. Exactement. J'observe le phénomène et je suis sans bon jugement.
Alors, il y a une dimension très importante de votre vie et qui s'est beaucoup manifestée ces dernières années. Nous avons fait ensemble, c'était un vrai plaisir, ce livre Mal de Terre, qui est un livre d'engagement en faveur de la planète et écologique, dans lequel, ça fait maintenant presque une dizaine d'années,
oui,
dans lequel vous dressiez un constat très alarmant, effectivement, en tirant toutes les sonnettes d'alarme, notamment à cause du réchauffement planétaire, mais pas seulement, disparition des espèces, etc. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre combat écologique? Quelle est votre... Alors, deux questions. Je dirais d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vous battre pour la Terre? Qu'est-ce qui a éveillé ce combat-là? Et aujourd'hui, quel serait le constat que vous feriez sur où est-ce qu'on en est dans cette question?
D'accord. Ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que j'ai des petits-enfants qui ont 2 ans, 5 ans. Et je me dis que dans 50 ans, moi, j'y serai plus, mais eux, j'espère, ils seront toujours. Quelle vie ils auront? Quel cadre de vie? On a l'impression qu'il y a une tendance à de détérioration du cadre de vie qui devient de plus en plus misérable. Et pour s'en convaincre, il suffit d'aller dans les grandes mégalopoles africaines ou chinoises. Et ma crainte, c'est que nous vivions aujourd'hui dans une période de grand confort et que ça ne soit pas le cas pour ces enfants. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, en espérant, sans trop y croire, mais enfin, je pense que c'est ce qu'on peut faire, justement. Alors, l'autre question, c'était, oui, quel est mon constat? Je dirais, le constat, c'est que depuis qu'on a fait ce livre ensemble, il y a eu à la fois une amélioration gigantesque et une détérioration gigantesque. Les deux acteurs qui sont en combat, en conflit, ont pris de la force chacun de leur côté. Il y a le David de la vague verte, du réveil vert, qui prend de la force un peu partout. Il y a eu Nagoya, il y a eu Copenhague. On a beau dire que ce n'était pas des grands résultats, c'était des résultats importants, c'était des petits pas. Il ne faut pas attendre à ce que tout soit réglé d'un coup, mais on a vu un éveil un peu partout. On le voit par Nicolas Hulot, on le voit par M. Stein en Angleterre, Al Gore, un peu partout. Et puis
la conscience écologique progresse dans le monde entier.
Très fortement. Mais d'un autre côté, la détérioration se poursuit toujours plus rapide. Par exemple, on sait que les gaz à effet de serre, il faudrait les réduire de 80%. Chaque année, on les augmente de 2-3%. Et même cette croissance, ce phénomène est en croissance. Donc, on va vraiment vers un conflit épique, titanesque, entre deux forces, et personne ne sait qui va gagner. Et ma raison de m'y intéresser, c'est de me dire d'abord, en tant que scientifique, je connais un peu les méthodes d'évaluation des risques, de savoir si c'est alarmant ou à quel stade, mais c'est surtout ma préoccupation pour quelle sera la planète dans 50 ans et même dans 30 ans, à la vitesse
oui, ça peut
où les choses changent,
ça
change très, très vite. Alors, c'est un bel exemple, justement, de cette réalité de notre vie. Notre vie nous amène à nous poser des questions, mais pas simplement des questions théoriques, des questions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait en pratique pour ceci ou cela? Nous amène à nous poser ces questions, mais dans un cadre où nous ne savons pas quel est le sens de tout cela. Et je pense, moi, personnellement, que le sens de la vie, il n'est pas écrit dans le ciel en lettres de pierre. C'est à chacun de le faire, c'est de donner un sens à sa vie. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Personne ne peut vivre si sa vie n'a pas de sens. Et que pour une fois, et je dirais, c'est la cause la plus favorable, pour une fois, nous avons la possibilité de donner un sens qui est positif. Parce que, comme Edgar Morin le disait récemment, si vous prenez une jeune personne entre les deux guerres, entre 1925 et 1940, qu'est-ce qu'il y avait devant lui comme idéal? Il y avait le nazisme et il y avait le stalinisme. Il n'y avait pas de cause évidente qui pouvait initier une énergie, une robustesse. Aujourd'hui, il y a ça. On peut dire, on a au moins
ça. Ce combat pour sauver la planète.
Pour sauver la planète est quelque chose qui peut donner un sens
à
la vie.
Et...
puisqu'il n'y a pas de critique à faire contre cet idéal. C'est vraiment valable puisqu'il s'agit de sauver...
La possibilité de la vie sur
la
Terre.
La possibilité de la vie sur Terre, oui. Donc c'est en ce sens que je crois qu'il y a quelque chose
et
de
en tout cas, vous
tout
êtes convaincu que c'est bien l'activité humaine qui a accéléré le réchauffement et la détérioration de la planète.
Ça, c'était au-delà de tout doute raisonnable.
Bien quoi qu'on pense, Claude Allègre et d'autres.
Ben oui, malheureusement. Mais il y a une autre chose que je voulais dire, c'est qu'aussi, on découvre aujourd'hui qu'il faut étendre la conception d'humanisme. L'humanisme, jusqu'ici, c'était l'homme. C'est-à-dire, l'homme était celui qui avait une âme, les animaux...
C'était
là pour nous servir. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si on n'a pas l'écologie et donc la protection de toute la vie, pas seulement des ours polaires et des tigres du Bengale,
mais des arbres,
mais des abeilles, des vers de terre qui sont très menacés, si nous n'avons pas tout cela, on a découvert que tout cela vit dans une interaction très intense, que tout est relié à tout et que l'humanisme aujourd'hui doit s'étendre à toute la planète, à toute la vie. Autrement, on va vers la catastrophe.
Alors, pour faire des références religieuses, je dirais qu'il faut passer d'un humanisme biblique centré sur l'homme à un humanisme bouddhiste qui s'adresse à tous les êtres vivants.
Juste, très juste. Les bouddhistes ont vu ça beaucoup plus tôt.
Et les Africains aussi, Lili Envar?
Oui, absolument. C'est vrai que globalement, j'ai toujours pensé que nous avions beaucoup à apprendre de la culture africaine pour ce qui est de notre rapport au monde et à la nature. Mais il se trouve que, justement, en cherchant un texte sur la question écologique, qui évidemment vous occupe beaucoup, j'ai pensé à un passage extrait de Vie et enseignement de Thierno Bocard, qui est donc un saint, en fait il est considéré comme un saint, en tout cas un maître spirituel, qui a vécu donc au Mali dans les années 30. Et il a la spécificité d'être effectivement un Africain, mais aussi un musulman. Donc c'est un saint soufi. En quelque sorte. C'est un sage soufi. Et il est vrai qu'on trouve dans... Alors, chez lui, il y a ce mélange de la culture africaine, qui est justement en relation directe avec la nature, et en même temps informé par sa connaissance, bien sûr, de l'islam spirituel. Et les deux se marient fort bien, et j'ai souvent constaté qu'il y avait dans ce genre de pensée cet élément écologique avant l'heure, qui est très présent, et que pour ces sagesses-là, de même que d'ailleurs dans les sagesses orientales,
ou amérindiennes,
absolument, la vie spirituelle est absolument indissociable avec le respect de l'environnement et de la nature, parce que la nature est aussi création de Dieu, donc il y a une interaction qui est commandée par la quête spirituelle, en quelque sorte. Et voici donc ce passage extrait de l'enseignement de Tierno Bocard. Un jour, je m'en allais au champ accompagné de mon chien fidèle, ennemi juré des singes dévastateurs des plantations. Le moment était celui des grandes chaleurs d'avril. Mon chien et moi avions si chaud que nous arrivions à peine à respirer. Je m'attendais à ce que l'un de nous deux finisse par tomber en syncope. Enfin, Dieu merci, je vis un tiaki dont les branches sacrées offraient une voûte de verdure rafraîchissante. Mon chien poussa de petits cris de joie et joua des pattes en direction de l'ombre bienfaisante. Quand il l'eut atteinte, au lieu d'y rester, il revint vers moi, la langue tirée, la lèvre pendante, laissant à découvert ses dents blanches et pointues. À voir ses flancs palpiter frénétiquement, je compris bien qu'il était épuisé. Et je revins sur mes pas et me réfugiai à l'ombre. Tout heureux, mon petit compagnon vint se coucher devant moi de manière à avoir les yeux tournés vers les miens, comme pour me parler sérieusement. Les deux pas de devant étendus parallèlement, la tête relevée bien droit, tout en se reposant, il m'épiait pour ne pas perdre un seul de mes mouvements. Quelques minutes plus tard, ni mon compagnon ni moi ne ressentions plus la moindre fatigue. Ainsi protégé et revivifié par l'ombrage bienfaisant, je me mis à réfléchir. L'ombre procurée par un feuillage verdoyant et vivant répand sur toute la surface qu'elle recouvre un élément vivifiant qui neutralise l'élément irrespirable produit par la chaleur solaire. Un arbre couvert de feuilles mortes ne procure pas le même bien-être, je l'avais maintes fois éprouvé. Il existe donc dans le vert végétal, me dis-je, un principe assainissant nécessaire à l'entretien de la vie de l'homme et de l'animal. Ce principe vivifiant qui se dégage des végétaux verts sous l'action de la chaleur me fit songer au paradis tel qu'il est métaphoriquement décrit dans les versets coraniques. Le vert paradisiaque, songeais-je, n'est autre qu'une réalité spirituelle dont le vert végétal d'ici-bas est l'une des manifestations au niveau matériel. Le rapprochement fit jaillir dans mon esprit une flamme brillante de compréhension. Le paradis tel qu'il est décrit est un jardin symbolique dont la verdure est éternelle. Cette verdure éternelle atténue pour nous les rayons de la lumière divine, trop forte pour être supportée par notre vue. Mais, frère en Dieu, en attendant la chance de pénétrer dans le jardin céleste de demain, respecte aujourd'hui le grand jardin que constitue le règne végétal. Garde-toi d'en détruire sans raison la moindre plantule. Elle est une allégorie que Dieu fait sortir de la terre pour notre instruction, notre nourriture et notre confort.
Mais bon.
Hubert Reeves, une dernière question parce qu'on va devoir finir cette émission. On a parlé de la naissance de l'univers. Est-ce qu'on sait si l'univers finira un jour?
Alors ça, c'est une question. Il y a deux possibilités. Ou bien il va continuer à se refroidir indéfiniment, ou bien après un certain temps, il va recommencer, mais à l'envers, son expansion, c'est-à-dire que la température va remonter, les éléments seront détruits les uns après les autres, la structuration va être déstructurée. Alors, laquelle des deux est l'hypothèse qui va se passer? La théorie, en l'occurrence la théorie de la relativité générale d'Einstein, ne donne pas de réponse, mais elle laisse la possibilité de la trouver à partir d'observations cosmologiques. Jusqu'ici, les observations donnent avec une faible crédibilité la première théorie plutôt que la seconde, mais c'est loin d'être bien, bien connu. Ça reste encore une question passablement ouverte.
Nous terminons cette émission des Racines du Ciel par l'agenda culturel, avec en fait surtout des annonces vous concernant Hubert Reeves. Alors un livre que vous venez de publier, Hubert Reeves, La petite affaire jaune, illustration de Jean-Michel Charpentier aux éditions Elitis. De quoi s'agit-il ?
Alors ce sont des histoires, une collection d'histoires que j'ai fait, de devinettes, un peu pour changer de sujet.
Vous aimez bien raconter des petites histoires. Hein. Moi, voilà. Je vous connais bien. C'est vrai que vous êtes un sacré conteur.
Ben oui, c'est vrai. Je tiens ça de ma grand-mère.
Et ce sont peut-être des histoires drôles, des histoires...
Des histoires qui étonnantes, où il y a des basculements dans un autre espace. On s'installe dans un espace et puis la fin...
On est surpris.
On tourne à l'envers.
D'accord. Donc, La petite affaire jaune aux éditions Elitis. Je rappelle les livres de chroniques que vous avez fait à France Culture, qui ont été publiés donc aux éditions Point Seuil, Chroniques des atomes et des galaxies. Mmh. Et puis, votre dernier livre, L'univers expliqué à mes petits-enfants, aux éditions du Seuil, qui est un petit bijou. Et puis, je précise que vous avez sorti aussi un DVD, Compteur d'étoiles, édition Montparnasse, où vous présentez les grands événements de l'histoire de l'astrophysique et ses réflexions sur les origines indéfinissables d'un univers. Et enfin, j'annonce pour ceux qui veulent voir un portrait de vous à la télévision que l'émission, l'excellente série d'émissions Empreinte sur France 5 diffusera un portrait de vous le 10 février.
C'est ça.
Merci beaucoup Hubert, ça me fait très plaisir de vous accueillir aux Racines du Ciel.
Merci, merci de m'avoir invité.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai un autre ami, André Comte-Sponville, pour parler de l'amour et de la sexualité. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.